Les discussions du soir. Les discussions du soir, chaque vendredi, l'écrivain Régis Debray interroge les rapports de force internationaux.
Je reçois ce soir Gérard Chalian, spécialiste des guerres irrégulières. Gérard Chalian, votre dernier livre m'a interpellé, comme on dit. Pourquoi perd-on la guerre, un nouvel art occidental? Je crois que c'est une œuvre à la fois synthétique et implacable, où en fait vous répondez à la question comment, quand on a tout pour soi, on ne débouche sur rien en prenant les guerres occidentales de ces dernières années. Alors on ne présente plus Gérard Chalian, mais je vais tout de même le faire.
Merci.
Pour moi, vous êtes un témoin et un acteur de premier plan. D'abord parce que vous êtes un vieux de la vieille, malgré votre athlétique juvénilité. Vous avez sans doute trouvé le fameux sérum Bogomolets, après quoi je cours. Ensuite, parce que vous voyez clair depuis très longtemps. Et d'ailleurs, lorsque j'ai écrit Révolution dans la Révolution, vous avez été le premier à dire que cette formule un peu militariste ne marcherait pas.
Exact.
J'ai mis quelque temps à m'en rendre compte et j'ai fait depuis mon autocritique sans renier le fond du problème. Et enfin, parce que vous sortez de votre bureau, vous êtes un intellectuel de terrain. Alors c'est un peu un oxymore, mais vous l'incarnez à mes yeux. Et j'ai envie de vous dire, avant d'aborder notre sujet, d'où vous vient ce goût de la bourlingue, de l'aventure, du terrain?
Quand on était adolescent, avec un certain nombre de copains, ce qui nous excitait, c'était dommage, on n'a pas pu participer à la résistance, dommage, on n'a pas pu être dans les brigades internationales d'Espagne. Et à titre personnel, dans l'histoire de ma famille, il y avait un oncle qui, du temps du mandat français en Cilicie, un endroit qui se trouve aujourd'hui en Turquie, qui avait été à la tête d'une petite ville pendant 7 mois. Il avait dirigé le siège et il était mort les armes à la main. Bon, c'est une façon de mourir qui me plaît.
Bon, enfin, vous avez sans doute frôlé la mort, mais depuis, vous en êtes bien tiré, depuis 50 ans que vous êtes sur les théâtres, comme on dit, les théâtres d'opération. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre livre, cruel et synthétique, c'est que vous explorez les soubassements, je dirais, des défaites occidentales depuis 30 ou 40 ans. Vietnam, Afghanistan, et peut-être Syrie, enfin, nous y reviendrons. Et vous explorez donc des choses rarement analysées en dehors de la supériorité en armement. Parce que votre livre se divise en deux, n'est-ce pas? Il y a d'abord le monde colonial, la supériorité de
l'Occident. Pourquoi on gagnait?
Pourquoi on gagnait? Et puis après, il y a le retournement. Pourquoi on perd? Bon, et alors, en dehors de la supériorité des armements, et du facteur démographique, ça, faites
très important.
Très important de relever, disons que l'Occident, aujourd'hui, c'est 14% de la population mondiale.
Alors que c'était 33 il y a un siècle.
Voilà, et ça compte. Mais alors, on va aller, si j'ose dire, au cœur des choses, c'est-à-dire les facteurs de l'échec, qui seraient les facteurs de succès. Et alors, les facteurs de succès, comme vous remontez loin, vous commencez par nous raconter le Mexique, Cortés, le Pérou, avec Pizarro, etc. C'est-à-dire, 1521...
La première expansion occidentale.
Voilà. Et alors vous dites, pour gagner une guerre, il faut connaître l'adversaire.
Oui, ça a l'air comme ça d'une tautologie, mais c'est fondamental. C'est-à-dire, si on n'a pas une connaissance culturelle de l'autre, si on n'a pas une connaissance de son savoir-faire, de sa façon de faire la guerre. Quand on s'imagine qu'il réagit comme vous, qu'il a les mêmes principes que vous, qu'il a la même rationalité que vous, on va droit au mur. Les Américains, à cet égard, ont commis les chefs-d'œuvre. La guerre du Vietnam, c'est une guerre mal menée. La guerre d'Irak, qui était une guerre de choix, est une guerre mal menée. L'Afghanistan, vous voyez le résultat, 15 ans après. Donc, d'une façon générale, la connaissance de l'adversaire, c'est la chose fondamentale.
Et alors, le problème, c'est que l'Amérique est en train de déteindre sur l'Europe, puisque nous aussi, nous nous mettons à intervenir sur des terrains culturels dont nous ignorons tout. D'ailleurs, vous relevez un mot de McNamara, McNamara qui fait son autocritique. Oui. Et qui dit, en 1995, je n'avais jamais été en Indochine, je n'en connaissais ni l'histoire, ni la culture. Je ne crois pas que M. Sarkozy connaissait l'histoire et la culture de la Libye, par exemple. Mais le problème est qu'il s'en foutait. Et ça, c'est tout de même grave. D'autant qu'on a inventé un mot qui nous évite d'avoir à comprendre ou de chercher à comprendre. C'est le mot de terroriste. Qu'est-ce que vous pensez de cette appellation terrorisme? Vous qui avez fréquenté beaucoup de mouvements qualifiés de terroristes, naguère est peut-être devenu mouvement de libération aujourd'hui.
Moi, je trouve que c'est un terme générique qui cache les réalités. On appelle terroristes des mouvements qui sont, pour l'observateur, sans idéologie. Des guérillas, parce qu'on ne peut pas, par exemple, lutter contre le terrorisme avec 150 000 hommes sur le terrain. C'est le cas d'un certain nombre de pays qui se sont débarrassés ou qui n'ont pas pu se débarrasser de groupes armés. Donc terrorisme, c'est un terme générique que, à mon avis, George W. Bush, en 2002, tout de suite après le 11 septembre, a dressé la liste. La liste, c'était tous les mouvements de leurs alliés ou les mouvements qui leur déplaisaient, ils ont été classés comme terroristes. Par exemple, les Colombiens, qui depuis 1964 animaient une guerre de guérilla, c'était des terroristes.
Alors, attendez, si c'est un mot écran, par quoi pourrait-on le remplacer ?
À mon avis, le terme le plus juste pour l'observateur, ce sont des guerres irrégulières. C'est la différence, en somme, avec la guerre régulière. Lorsqu'il y a classiquement le choc de deux armées. La guerre irrégulière, c'est l'inverse. Ouais. C'est la guérilla, c'est l'usage aussi du terrorisme, mais secondairement la plupart du temps.
Le problème, c'est qu'il faudrait employer le mot « originaire » que vous analysez bien dans votre livre, c'est celui de partisan. Mais le problème du partisan, la guerre de partisan, le partisan est plutôt sympathique.
Oui.
Même si on en a souffert, nous, en Espagne, enfin nous,
oui.
Napoléon... Pas exactement moi, mais dites-vous. Mais enfin, on pense à la Russie, etc. Donc, le mot de partisan, ça pourrait convenir ?
Oui.
Pas pour la propagande, ma fille.
Je fais une différence entre guérilla et partisan. Pourquoi ? La guérilla, c'est une chose qui naît spontanément d'un refus. Et il faut préparer les gens, il faut leur expliquer pourquoi on se bat, etc. La guerre de partisans, en général, c'est quelque chose qui est mené à côté d'un État. C'est-à-dire, l'État n'a pas été démoli.
C'est vrai.
On a des troupes légères qui harcèlent. Alors, ils utilisent le même style, c'est-à-dire mobilité, surprise, etc. Mais ils n'ont pas à faire le travail politique. La guerre de partisans, c'est une guerre patriotique où c'est acquis d'avance. Tandis que la guérilla, sociale, religieuse, etc., il faut gagner des gens.
Elle doit expliquer ses motifs.
C'est ça.
À tout instant.
Voilà.
Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs... Oui, mais vous savez bien qu'une guérilla ne peut l'emporter qu'avec un sanctuaire, à côté.
Ah, c'est nouveau. C'est nouveau. Autrefois, pourquoi on gagnait, par exemple, au XIXe siècle dans les guerres coloniales ? D'une part, parce que on s'installait. Je citais l'exemple des officiers britanniques en Inde. Votre première perme, c'était 10 ans plus tard. Alors, en 10 ans, on sait qui est qui. On est quelque part. Ouais. On connaît le pays. On n'est pas quelqu'un qui passe comme ça quelques mois en disant, vous avez suivi 3 cours qui vous expliquent. Alors, il y a ça. Et deuxièmement, il y a ce fait, si vous voulez, que, non seulement on connaît l'adversaire, mais en fin de compte, on connaît tous ses modes d'opération.
Voilà. Et on finit peut-être par le respecter. En tant qu'adversaire.
En tant qu'adversaire, oui, mais c'est très fréquent. Quand on lit les mémoires de Churchill, par exemple, il reconnaît que les gens du Mahdi à Omdurman se battaient avec une extraordinaire vaillance. Oui, bien sûr.
Alors, il y a un deuxième facteur Alors, je ne vais pas parler, parce que chaque facteur peut être un facteur de succès et d'échec. Il était hier un facteur de succès. Je veux maintenant parler de la foi en eux-mêmes qu'avaient les colonialistes occidentaux, leur élan conquérant, la combativité. Et aujourd'hui, facteur d'échec, les occidentaux, pour employer ce terme un peu commode, la fragilité psychologique. Oui. Le manque d'élan. Parlez, comment l'analyser, cette sorte de... Alors, c'est lié au fait que, on prend pas le temps, on est pressé, il faut gagner vite, on a envie de rentrer chez soi. Mais au fond, est-ce qu'on y croit encore?
Non, moi, je pense que une longue période de paix et de relative prospérité a beaucoup changé notre relation à ce qu'on appelle la violence. Nous avons été dans un univers de sécurité, nous en voulons toujours davantage, et plus on est en sécurité, et plus on a peur. Nous sommes des sociétés terrorisables. Autrefois, c'est nous qui terrorisions, et aujourd'hui, nous sommes terrorisés. Alors, hier, l'adversaire ne nous connaissait pas, il n'avait pas de sanctuaire, il n'avait pas d'aide extérieure. Aujourd'hui, il a toujours un sanctuaire, il a toujours des aides extérieures, ça change tout, et en plus, hier, il ne nous connaissait pas, aujourd'hui, ils ne nous connaissent que trop. On voit bien la façon dont Daesh, c'est-à-dire l'acronyme qui désigne l'État islamique, connaît admirablement les techniques hollywoodiennes de manipulation des réseaux sociaux, de la propagande. Et nous sommes suffisamment stupides dans nos médias, qui sont en fin de compte aujourd'hui encore des médias du spectacle. Nous sommes stupides dans la mesure où nous relayons leur propagande à gogo et nous déstabilisons nos propres opinions publiques qui n'ont pas besoin de ça. Oui. Si on était vraiment en guerre... comme d'autres, ailleurs, nous nous comporterions de façon différente, avec une censure de guerre, avec des restrictions que nous nous imposerions nous-mêmes. Non, ici, non, nous sommes dans une société marchande, on vend de l'angoisse et ça marche très bien.
On est un peu les attachés de presse de Daesh, en quelque sorte.
C'est à peine une plaisanterie, Régis Sebray.
Et d'ailleurs, quand on lit, parce que ça m'est arrivé... la revue en français, parce qu'ils ont commencé par une revue en anglais, parce que l'anglais est une langue tout de même internationale. Mais enfin, ils nous font l'aumône, si j'ose dire, d'une revue en français que j'ai eu l'occasion de lire. Je suis frappé par leur connaissance, y compris du milieu intellectuel français. Il m'arrive de penser que la revue de Daesh est faite dans le 6e arrondissement. Ne m'inculpez pas, j'habite dans le 6e, ce n'est pas moi. Mais c'est très troublant, effectivement, je réponds à votre idée qu'ils nous connaissent.
Ils nous connaissent très bien.
Et nous ne les connaissons pas.
Non, très mal, parce qu'on se dit qu'ils sont terroristes. Or, ce ne sont pas des terroristes, c'est un mouvement révolutionnaire, il faut avoir le courage de le dire, c'est un mouvement révolutionnaire. Certes, ce pourquoi ils se battent est absurde, c'est une impasse, on ne peut pas revenir à la grandeur passée de l'islam en s'imaginant qu'en redescendant au premier siècle de l'Égypte, on va réussir à... Non, les gens sérieux aujourd'hui, ce sont ceux qui font de la croissance, les Indiens, les Chinois, les Coréens du Sud, les Vietnamiens, ça c'est sérieux. Ils ont été humiliés, maintenant ils prennent leur revanche. Comment ils la prennent? Eh bien, en augmentant leur puissance par le travail. Le travail est un mot dont je n'ai jamais entendu parler au sein de l'État islamique.
C'est vrai, c'est très vrai ce que vous dites. Mmh. Oui, au fond, ils n'ont rien à proposer de sérieux, en dehors d'une rhétorique et peut-être d'une croyance. Alors là, j'ai envie, Gérard Chalian, de nous poser une question que vous osez affronter dans « Pourquoi perd-on la guerre ?». C'est une question que vous mettez à la fin, mais pour moi c'est la question du début, mais elle est difficile. Il y a des gens qui non seulement n'ont pas peur de la mort, mais qui ont envie de mourir. Et puis il y a des gens qui ne veulent pas mourir. Les modérés ne veulent pas mourir. C'est nous. Je dirais même les vieux ne veulent pas mourir. On est plus près de la mort quand on est jeune. Or, nous sommes des sociétés vieilles. Des sociétés qui ont beaucoup vieilli qui vieillissent. Oui. Donc, vous l'avez dit avant, très obsédés de leur sécurité. Et puis, nous n'acceptons plus la mort. Alors, moi, j'ai une question un peu embêtante à vous poser. on manque d'idéologie. C'est-à-dire qu'on manque, pour aller vite, d'un sacré. Le sacré étant ce pourquoi on doit se sacrifier. Autrement dit, est-ce qu'il faut délirer intellectuellement ou rationnellement pour affronter la mort, donc pour pouvoir faire la guerre?
Il y a ceux qui, idéologiquement, et l'idéologie peut varier, hein, ça peut être une idéologie religieuse, ça peut être une idéologie nationaliste, ça peut être une idéologie de minoritaire qui veulent absolument survivre, il faut être effectivement motivé, c'est ce qu'on appelle être idéologisé. En général, ça permet, au fond, de se hisser au-dessus de soi-même et d'accepter le risque de la mort.
Je suis d'accord avec vous, mais notez comment le mot idéologie a pris chez nous un sens...
Péjoratif.
Plus que péjoratif.
Oui, oui. Trop mauvais. Alors, n'empêche que de l'idéologie, d'une certaine façon, on en a par exemple. Moi, à titre personnel, je veux bien me battre pour la préservation de l'état de droit. Je veux bien me battre pour ce que nous appelons la démocratie. Je trouve que dans les 6000 années d'histoire que nous connaissons, pour moi, la grande date, c'est cette fin du XVIIIe siècle où, aux États-Unis, comme en France, des gens se lèvent et disent « c'est fini le despotisme ». Ça, c'est formidable. Ça, c'est la grande nouveauté, c'est ça, c'est fini le despotisme. Et quand je regarde le monde, bon, ben, je vois des despotismes un peu partout, et rarement un despotisme éclairé, parce que je suis pas contre le despotisme éclairé. Il y a des fois, il faut savoir, Singapour en est l'expression, par exemple, la plus réussie. Donc, effectivement, il faut être animé de quelque chose. Bon, alors, pour être animé de quelque chose, il faut sentir que cette chose est menacée. Alors, est-ce que nous sommes vraiment menacés? Est-ce que nous sommes le dos au mur? Ben, c'est pas sûr. Il y a un côté, ben, voilà, finalement, on a beau se plaindre, c'est encore pas si mal. Et de ce côté-là, nous sommes très démobilisés.
La menace peut nous réveiller. C'est vrai que les agressions réveillent et la paix endort. Est-ce que vous croyez que nous sommes en guerre actuellement?
Absolument pas. Ça, alors là, c'est vraiment de l'inflation verbale. La guerre, tout le monde devrait connaître ça, c'est ce qu'on appelle un affrontement quotidien. Non, nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes en Syrie et en Irak, mêlés à un conflit. Et de temps en temps, les effets collatéraux de ce conflit nous atteignent. Ça n'a rien à voir avec la guerre. Non, nous ne sommes pas en guerre, c'est un discours pas sérieux, et on peut mobiliser personne autour d'un slogan de ce type.
Je suis d'accord avec vous, peut-être parce que nous avons eu des cheminements un peu parallèles, peut-être parce que nous avons côtoyé, participé à des affrontements
plus sérieux,
et qu'on est un peu, vous et moi, à cause de notre grand âge, notre côté un peu ancien combattant, on est un peu stupéfait devant ces rhétoriques... politiques qui ont été, je lisais ça sur un magazine, nous serions, paraît-il, dans la Troisième Guerre mondiale.
C'est absurde.
C'est absurde.
C'est absurde. C'est vraiment, c'est perdre complètement toute espèce de perspective, c'est perdre toute espèce de repère. Non, nous ne sommes pas dans la guerre. Nous ne sommes même pas dans un retour de la guerre froide. C'est de la blague, tout ça. Non, pas du tout. Dans la pratique, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu la chute de l'Union soviétique, Régis Debray, et après ça, certains ont imaginé que ça allait être une période démocratique, etc. Bon, ça, non, l'univers, il a toujours été conflictuel, il n'y a aucune force supranationale, donc les puissances se livrent une compétition féroce pour accroître leur puissance afin de garantir leur sécurité. Voilà, c'est comme ça, et ça va continuer comme ça. Bon, mais appeler ça une guerre froide, non. C'est la continuation tranquille de l'ordre des choses, c'est-à-dire nous sommes dans un univers conflictuel où la tragédie peut toujours être présente, Régis Debray.
Thank you.
Gérard Falian, ces nocturnes de Chopin que vous avez choisies, inattendues de la part d'un guerrier, révèlent ou nous fait redécouvrir que vous êtes aussi un poète.
Oui, peut-être même essentiellement.
C'est rare, les poètes qui fréquentent les champs de bataille. Mais c'est, j'aime bien ce type de contradiction. Revenons un peu sur le déni de la mort qui me semble... Enfin, nous vivons une situation bizarre, parce qu'à la fois, le médiatique a besoin de situations extrêmes pour faire monter la tension et, je dirais, rythmer en quelque sorte l'information.
Mais chez les autres.
Mais on veut de l'extrême, mais on ne veut pas de la mort.
C'est ça.
On ne veut pas de la mort chez nous. L'invention de la guerre à zéro mort est tout de même quelque chose d'étonnant. Et peut-être même ne veut-on pas de la mort chez les autres ou on ne veut pas la voir.
Oui. Alors, je pense qu'on peut dater ça. C'est très, très nouveau. Bon, autrefois, pendant la guerre du Vietnam, on vous disait, voilà, on a tué tant de Viet Minh, etc., etc. Et puis, en 1991, après une vingtaine d'années de paix relative, il y a eu cette fameuse coalition pour empêcher Saddam Hussein d'annexer le Koweït, ce qu'il avait fait. Et au terme de 6 semaines de bombardement, avec comme idée que la guerre zéro mort, c'était quelque chose d'enviable, bien que le paradoxe est effectif, on a, pour la première fois dans la longue histoire des batailles, on n'a pas donné le chiffre des pertes militaires de l'adversaire. C'est une absolue nouveauté. Alors, ce que nous savons, par ce que disent les états-majors et ce qui n'a jamais été publié, c'est que pour les 350 hommes à peu près que la coalition aurait perdu, en face, les militaires irakiens ont perdu entre 35 000 et 70 000 hommes. 35 000 selon les Britanniques, 70 000 hommes selon le Pentagone. Ça fait un rapport de 1 à 100 ou 1 à 200. Eh bien, on n'a pas publié ce chiffre parce que nos propres opinions publiques auraient été horrifiées par la disproportion. C'est-à-dire, on ne veut même pas que l'adversaire, en quelque sorte, puisse souffrir une telle hécatombe. Alors, je trouve ça extraordinairement civilisé. C'est très bien. Sauf que cette façon d'envisager les rapports martiaux s'arrête à la frontière de l'ex-Yougoslavie, où dès qu'on a passé la frontière, plus on tue l'adversaire et mieux c'est. C'est-à-dire que le vieil ethos guerrier, de là jusqu'à l'Afghanistan, ben c'est ça qui règne. On coupe de l'adversaire tout ce qui dépasse, avec allégresse, et nous sommes dans un autre univers, extraordinairement protégé. Malheureusement, ben nous ne sommes pas justement dans un monde qui est uniforme. Donc nous nous sommes réfugiés dans cette espèce de bulle, où nous voulons à tout prix que la mort n'existe plus. Il y a une sorte de déni. C'est même pas le militaire qui ne veut pas mourir en définitive. C'est le civil. Quand on a perdu 10 hommes dans une embuscade en 2008, le président de la République de l'époque est allé à Kaboul pour montrer sa compassion. Est-ce qu'on aurait imaginé, 50 ans avant, Charles de Gaulle se rendant en Algérie, parce qu'on avait perdu 10 hommes dans une embuscade? C'est absurde. On les perdait de toute façon tous les 10 jours, ces 10 hommes. C'est pas Charles de Gaulle qui est en cause, ou le président de l'époque. C'est l'opinion publique a changé. Nous avons changé. Oui, et à partir de là, notre façon de regarder le monde nous rend extraordinairement fragiles. Nous sommes des obsédés de la sécurité. Nous sommes des consuméristes qui se consolent en consommant, et nous sommes devenus non pas sensibles, nous sommes dans la sensiblerie.
Oui, nous sommes devenus douillets, mais c'est peut-être ça au fond, la civilisation, c'est de devenir douillets. En tout cas, ce qui est établi, et vous y contribuez, Gérard Falian, avec notamment votre dernier livre, c'est que supériorité technologique égale infériorité stratégique et je dirais infirmité spirituelle, dans la mesure où le spirituel est tout de même ce qui, parfois, conduit à accepter des souffrances physiques. C'est une situation étrange. Nous sommes, en quelque sorte, victimes de notre développement industriel, informatique. C'est-à-dire qu'au fond, nous ne voulons plus voir la réalité en face. Ça nous permet, au fond, de ne pas voir la réalité en face. Enfin, le fameux le drone armé est l'exemple même de cette guerre à distance.
De cette substitution où on espère que le robot demain va faire le travail que nous n'avons plus envie de faire. Oui, tout cela existe, en effet.
Et alors, évidemment, quand on parle de tout ça, vous évoquez des chiffres de morts. Moi, je pense toujours à cette journée du 26 août 1914 dans laquelle les armées françaises ont eu 25 000 tués, n'est-ce pas?
C'est inimaginable aujourd'hui
pour
nous.
C'est inimaginable. 25 000 tués, ce serait quoi? Ce serait une bombe atomique, enfin. Oui. Bombe atomique, ça fait, celle qu'ont lancée les Américains, c'est 80 000 morts, hein. En tout cas pour Hiroshima. Alors, tout de même, on ne peut pas... Nous parlons là en anthropologue. Bon, et c'est fondamental. Parlons de l'actualité. Bon, vous êtes très au fait de la guerre en Syrie. Vous êtes, historiquement proche du monde kurde. Vous connaissez le monde kurde depuis longtemps. Parlons un peu de la Syrie d'aujourd'hui et de votre façon de l'appréhender. D'abord, les Kurdes qui sont aujourd'hui à la fois salués et idéalisés un peu.
C'est vrai.
Vous ne participez pas à cette idéalisation, mais vous participez, et c'est normal, à notre certaine admiration que nous avons pour ces combattants et combattantes. Mais en fait, aujourd'hui, comment voyez-vous... D'abord, pourquoi on en est arrivé là, en Syrie, aujourd'hui?
Là, vous, Régis Debray, là, vous posez la question qui m'intéresse. C'est-à-dire que, bon, on a énormément d'informations, mais on n'a pratiquement pas d'analyse. Alors, qu'est-ce qui se passe en Syrie, dans cet imbroglio où, finalement, tout le monde est présent? Alors, on assiste à plusieurs guerres à la fois, en réalité. Il y a d'une part un conflit entre les sunnites et les chiites, c'est-à-dire entre finalement l'Iran d'une part et puis essentiellement l'Arabie saoudite, bien que la Turquie soit sur la même longueur d'onde en tant que puissance sunnite. On a une révolte qui démarre de façon démocratique en 2011 et qui après très rapidement devient un otage des islamistes. Et puis nous avons... à partir de la fantastique erreur américaine de la guerre de Choua de 2003, la constitution d'une résistance à l'intérieur de l'Irak qui va se propulser en Syrie parce que dans le chaos syrien et avec une frontière ouverte en Turquie, on peut recevoir des approvisionnements, de l'aide, des recrues, etc. Nous, en 2014, nous avons véritablement été frappés par l'extraordinaire croissance de ce qu'on appelle Daesh, avec la prise de Mossoul. Et ces types, en plus, se sont immédiatement livrés à une politique de terreur qui, en général, se pratiquait en catimini. Au contraire, l'ont rendu la plus visible possible, un peu comme les Mongols qui, n'étant pas très nombreux, terroriser pour que finalement les gens s'effondrent avant même qu'ils n'arrivent.
Sauf qu'à la différence des Mongols, il y a une théologie derrière. Il y a même une ritualisation de la mort.
Tout à fait.
Il y a même un retour à des techniques, je
des
dirais...
Des techniques anciennes,
d'égorgement qui sont dans les textes.
Tout à fait. Là, vous avez
il y a un côté, on ne le dit pas toujours, ce sont des barbares lettrés.
Oui, et ritualistes en plus.
Et ritualistes.
Tout à fait. Et alors, il y a eu un sentiment que la victoire était au bout du fusil, hein, ils sont même rentrés en territoire kurde, c'est à ce moment-là d'ailleurs que l'Amérique intervient de façon aérienne et stoppe complètement leur avance, mais à ce moment-là, les gens de Daesh ont théâtralisé l'horreur. Cette théâtralisation, comme montrer un pilote jordanien se faire brûler vif, décapiter les gens de façon spectaculaire, bon, nous l'avons transmis. Alors nous avons fini par oublier que ce n'est pas le seul mouvement. Il y avait bien d'autres mouvements à l'intérieur. Je ne veux pas vous donner les noms, ça évoque rien à personne, le Jabhat al-Nusra, le Harar al-Sham, le Jaish al-Islam, etc. Enfin, c'était des gens qui travaillaient avec Al-Qaïda ou qui étaient très salafistes, etc. On les a oubliés. Et ces gens-là, on les appelait aussi les forces de l'opposition.
Oui, on les a comme on nettoie l'argent sale, on nettoie l'intégrisme en l'appelant rebelle, opposition.
Voilà, exactement. Bon, dans la pratique, à un moment, c'est exact, le problème c'était ou bien c'est Bachar, pour l'instant, ou bien ce sont les islamistes à Damas. Ce que ni les Américains, ni les Européens, ni les Russes d'ailleurs ne veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent les Russes ? Les Russes, ils tiennent pas particulièrement à M. Bachar al-Assad, ils tiennent à ce qu'il y ait un régime en Syrie qui reste ouvert à la Russie, comme la Syrie l'a été au cours des 50 dernières années. Mmh. C'est ça qu'ils veulent. Bon. Au nom de cela, ils feront beaucoup de choses. Et ils ont beaucoup frappé, non pas seulement le fameux Daesh, mais les autres mouvements, dans la mesure où ces mouvements se trouvaient dans la Syrie utile, au sens géographique du terme, c'est-à-dire celle qui est urbanisée. Que veulent ces mouvements ? Ben, ils veulent la prise de pouvoir, ils veulent exactement la même chose que Daesh, avec des méthodes différentes. Celui qui était affilié à Al-Qaïda a dit « je ne suis plus affilié à Al-Qaïda, je change de nom », c'est-à-dire « je me repeins en respectable ». Ça change rien à la nature de.
Non, mais ça change nous à notre réception.
Voilà.
C'est bon, dans alors, un monde de communication.
Bon, monsieur Bachar, lui, veut sauver évidemment son régime d'Alaouite, un régime de minoritaires qui, s'il s'effondre, sera entièrement massacré. Donc, effectivement, ils se battent, le dos au mur. Les Américains, qu'est-ce qu'ils veulent dans cette affaire ? Eh bien, monsieur Obama, qui, à mon avis, est un grand président. Monsieur Obama, il a battu Monsieur Poutine.
Il a compris, il a tiré les leçons des défaites américaines
tout à fait.
Des 20 dernières
tout
années.
Tout à fait, Régis Debray.
Il a eu ce courage.
Absolument. Alors, il a, à mon avis, il a battu Monsieur Poutine en Ukraine. Monsieur Poutine a perdu en Ukraine. L'Ukraine s'est perdue. C'est-à-dire, il a perdu l'idée selon laquelle l'Ukraine ferait partie de son fameux projet d'économie asiatique. C'est fini. Il a perdu 40 millions de Slaves russophones et il se retrouve avec 120 millions de Russes dans un environnement où il y a 80 millions de musulmans qui font plus d'enfants que lui et qui sont pas alcooliques. Et avec une pesée chinoise importante en Sibérie. Donc, si vous voulez, il faut arrêter de raconter que c'est le grand méchant loup. Bon, il défend avec les méthodes qui sont les siennes dans un pays qui n'a jamais connu véritablement la démocratie, les intérêts de la Russie. Et en fin de compte, malgré qu'il roule beaucoup des mécaniques, il est dans une situation pas facile sur les 20 prochaines années. Les États-Unis, au contraire, donc, ont gagné. En Ukraine. Ils ont également réussi à contenir la Chine, c'est-à-dire sur la mer de Chine, il n'y a eu aucune concession. Il y a aussi un endiguement de la Chine qui est en train de s'opérer. La nouvelle stratégie américaine, c'est Asie-Pacifique, c'est-à-dire que le rival, au fond, c'est la Chine. Et on se dégage du Moyen-Orient autant que faire se peut, compte tenu des difficultés qu'on a eues en Afghanistan, en Irak, etc., qui sont des échecs. On a aussi remplacé le pétrole sur le long terme avec le gaz de schiste, en ayant moins besoin des Saoudiens. Et dernière chose sur les Saoudiens, c'est eux qui ont été le terreau de tout ce que nous avons à affronter en matière d'islamisme. Il y a 50 ans que ces types, partout, de l'Afrique subsaharienne jusqu'en Indonésie, ont répandu leur médressa, leur prêcheur, etc.
Oui, je suis d'accord avec vous. Que l'empire états-unien n'est pas fini.
Du tout.
Qui n'est pas en déclin, comme certains l'ont dit.
Non.
Et qu'il, stratégiquement, économiquement, culturellement, il se porte fort bien.
Et technologiquement, c'est eux qui ont tout inventé, avec la communication.
Évidemment, c'est eux qui ont tout inventé, mais depuis longtemps. C'est pas une raison pour devenir leur supplétif ou leur petit chien. Comme M. Blair en son temps, ou comme certains présidents français. Mais vous avez raison, le rapport de force ne leur est pas défavorable. Et les Kurdes, alors, dans cette affaire ?
Alors, les Kurdes dans cette
Vos
affaire...
Vos amis Kurdes, mon frère Fayant.
Oui, les amis Kurdes, ils jouent des partitions qui sont pas les mêmes. Par exemple, en Irak, le Kurdistan d'Irak, en fait, il est divisé en deux. Le nord, barzaniste, dépend pour son ouverture... parce que c'est un État enclavé de la Turquie.
Oui,
le sud est largement sous influence iranienne. C'est quand même une société qui n'a pas de tradition étatique, contrairement à la Turquie, contrairement à l'Iran, contrairement à l'Égypte, qui hélas ne s'en sort pas du tout.
Et les conflits intertribaux Y compris chez les Kurdes.
Très important, oui. En ce moment, par exemple, il y a un conflit entre ce qu'on appelle le PKK et même les Kurdes de Syrie, et puis les Kurdes d'Irak avec M. Barzani, pour savoir qui est, en fin de compte, légitimement l'héritier du nationalisme kurde. Bon. Alors, ceux qui se battent à l'heure actuelle, qui sont en somme nos supplétifs, hein, ce sont les Kurdes de Syrie. Ils sont animés d'une idéologie extraordinairement combative.
Patriotique.
Patriotique. C'est des combattants et des combattantes très importants. Bon, pourquoi est-ce qu'il y a des combattantes? Ben, il y a une chose que l'observateur, en général, ne prend pas en note. Ont des combattantes, beaucoup de mouvements minoritaires. C'était le cas des Tigres tamouls, c'était le cas de d'autres mouvements, en Érythrée par exemple, parce que ça permet de doubler les effectifs.
Oui.
Quand vous êtes 10%, si vous mettez les femmes dans le coup, bah vous êtes 20%. Alors ça n'empêche pas que...
Ce que les Israéliens font aussi.
Les Israéliens font ça aussi.
De leur côté.
Eux aussi, ils ont un problème démographique.
Oui, on oublie cette donnée démographique.
C'est très important. C'est très important. Alors, ils sont animés d'une foi considérable et ils souhaitent avoir une ligne continue le long de la frontière syro-turque. Ceci est inacceptable pour M. Erdogan. Il est allé à Moscou pour ça. Il s'est d'abord excusé sur l'avion qui avait été abattu en disant que c'était une erreur. Et puis, il est allé à Moscou en disant, ben voilà, moi, c'est non négociable. Cette partie de la frontière syro-turque que les Kurdes de Syrie veulent contrôler, je ne peux pas la leur laisser. En échange, je veux bien dire que mon objectif principal, pour l'instant, ce n'est pas la chute du régime de Bachar el-Assad. Bon, cette espèce d'arrangement turco-russe, qui est strictement tactique, a marché. Et ce qui prouve une chose, c'est que à terme... Malheureusement, pour les Kurdes de Syrie, ils seront probablement sacrifiés sur l'autel des intérêts d'État des uns ou des autres.
En tout cas, ils se battent parce qu'ils ont la foi.
Oui.
Et c'est une foi nationaliste.
Exact.
Il faut le dire.
Absolument.
Pour prononcer le mot
abominable. Oui, oui.
François Mitterrand disait, le nationalisme, c'est la guerre. Ben, on est bien content qu'il la fasse, cette guerre.
Bien sûr.
Parce qu'il y a une coïncidence, disons, entre les intérêts impérialistes occidentaux et les intérêts nationaux kurdes. C'est une formidable coïncidence. Ça ne durera peut-être pas.
Mais
les Kurdes, me semble-t-il, ont tout à fait raison
de
profiter de cette alliance, même s'ils ont devant eux un avenir un peu sombre. Parce que la réelle politique, il faut prononcer le mot tout de même, qui ne nous fait pas peur.
Non, pas du tout. Pas du tout,
la réelle politique suggère que l'indépendance d'un Kurdistan à cheval sur quatre pays...
Hautement hypothétique.
Et plus qu'hypothétique.
Sinon impossible.
Impossible.
Voilà.
Par les catastrophes en chaîne qu'elles provoqueraient partout. Et que nous préférons donc une relative stabilité au prix d'une injustice.
Mais ce ne sera pas la première dans l'histoire.
Ce ne sera pas la première dans l'histoire. Et les Russes, qu'est-ce qu'ils font maintenant?
Les Russes, ils jouent une carte... tactique importante, c'est-à-dire que ils effacent en définitive la défaite qu'ils ont subie en Ukraine. Bon, ils l'ont un peu effacée en reprenant leur bille avec Sébastopol et la Crimée, qui en 1954 avait été donnée par l'Ukrainien Khrouchtchev à une époque où on pensait que l'Union soviétique était là pour durer. Bon, mais...
C'est une bêtise qu'a fait Khrouchtchev tout de même.
Oui, c'est exact.
C'est une bêtise.
C'est une bêtise. Et puis Sébastopol, ça aurait dû rester russe d'ailleurs, Helsinki en plus, leur avait donné. Erreur. Bon, quoi qu'il en soit, tactiquement, M. Poutine regagne en Syrie une part du lustre qu'il avait perdu en matière de relations internationales. Il est maintenant important, etc. Alors on va évidemment le démoniser beaucoup... parce qu'il touche des hôpitaux. Mais enfin, l'Observatoire syrien nous dit qu'entre le 22 septembre et puis le 3 octobre, il y a eu 300 morts. Bon, c'est quand même pas l'apocalypse. C'est-à-dire qu'il faut quand même raison garder et ne pas trop être manipulé. Alors la propagande de l'adversaire, nous ne sommes pas sensibles à la propagande de l'adversaire, mais la nôtre, nous la gobons. Alors je trouve que depuis Wikileaks et depuis Snowden, enfin, celui qui s'imagine que nous ne sommes pas manipulés est un crétin. Véritablement, c'est-à-dire que nous sommes manipulés, il faut quand même essayer de comprendre ce qui se passe, il ne faut pas gober ce qui est annoncé, ça ne veut pas dire qu'on est pour les Iraniens ou qu'on est pour les Russes ou qu'on est contre ou pour M. Bachar, il faut savoir ce qui se passe. Voilà. Moi, je trouve que l'observateur rigoureux explique ce qui se passe, vous explique ce que veulent les Russes, ce que veulent les Américains, ce que peuvent les uns, ce que peuvent les autres. Et puis après, bah, chacun fait ses choix selon ses préférences.
Vous êtes lucide, mon cher Chalian. Et la lucidité, ça coûte.
Oui, comme disait Charles, la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil.
Exactement. Oui. Et donc, vous prenez des risques, et j'aime que vous les preniez. Ces risques doivent être pris. Vous osez appeler propagande ce que nous appelons information.
Oui.
Peut-être parce que vous avez du recul. Au fond, je crois qu'aujourd'hui, ce qui nous rend aveugles à la logique de l'actualité, c'est que nous avons le nez dessus et que nous ne pouvons pas, disons, la mettre en perspective.
Oui, on est gavé. C'est-à-dire que vous prenez un spectateur ou une spectatrice quelconque. 10 ans après, il est gavé d'informations et il ne sait rien de plus, hélas.
C'est-à-dire qu'au fond, plus on a d'informations, moins on a de compréhension.
Oui, c'est pour ça qu'il faut lire. À mon avis, il faut quand même lire. Il faut lire des livres. Voilà.
Ce que vous faites depuis longtemps, en tout cas, moi, je recommande la lecture de, pour ceux qui ont le moral, hein,
voilà.
La lecture de Pourquoi perd-on la guerre, un nouvel art occidental, et tout de même le mérite de l'Occident, c'est de se réfléchir lui-même.
Ah ben, nous...
Au fond, vous êtes un bon occidental.
Oui, je suis un occidental, c'est-à-dire que je ne crains pas...
Vous êtes un bon occidental, autrement dit, vous ne vous regardez pas narcissiquement dans la glace, mais vous essayez une introspection sur notre histoire et notre histoire présente, et quand ça ne va pas, vous dites pourquoi ça ne va pas.
Oui, je pense que les sociétés doivent se regarder au miroir sans complaisance. C'est un sport difficile. En Occident, nous l'avons fait, nous le faisons encore. Je regrette qu'une grande partie de l'Orient, et particulièrement ce qu'on appelle le Proche et le Moyen-Orient, ne le fasse pas. C'est toujours la faute des autres. C'est toujours un complot ourdi ailleurs. Jamais, en quelque sorte, on est responsable de ses propres errements, de ses propres insuffisances.
Merci, Gérard Chalian. Les discussions du soir, Gérard Chalian, Claire Levasseur, Laurence Genepin. Anne-Pascale Desvignes et Régis Debray.